Bonjour, je suis Yasmine Youssi et très heureuse aujourd'hui d'évoquer ce livre, A Slow Boat to China, pour lequel Charlotte Ottmann, son éditrice, a réuni les photos réalisées par Marion Semama et David Wojnarowicz en 1991, l'heure de leur traversée des déserts américains, du Nouveau-Mexique à San Francisco, en passant par la vallée de la mort. David avait conscience que ce serait probablement son dernier voyage. Le sida l'a d'ailleurs emporté un an plus tard, en 1992, à l'âge de 38 ans. Mais ce livre, c'est va bien au-delà d'une simple traversée de l'Amérique, car il s'agit autant d'un voyage initiatique que du portrait d'une amitié singulière, et puis aussi d'une manière pour ces deux artistes de travailler sur un même sujet, ensemble, sans pour autant faire œuvre commune. Pour en parler, je vais commencer par me tourner vers vous, Charlotte, et vous demander qu'est-ce qui vous a amené à ces photos.
Oui, bonjour Yasmine, merci. En fait, ce qui m'a amené aux photos de Marion, c'est d'abord, à l'époque, je travaillais sur un texte d'un artiste qui s'appelle Ken Okishi, et qui revenait un peu sur le New York underground qu'avait connu David Wojnarowicz, et qui reprenait en fait des déambulations de David dans les rues de New York. Et en poussant un petit peu mes recherches sur David, évidemment, j'en suis arrivée à trouver des documents qu'avait produit Marion à l'époque et qui étaient un petit peu cachés dans l'Internet. Et ça m'a un peu piquée. Du coup, je suis rentrée en contact avec elle et ça a commencé comme ça un peu le travail éditorial.
Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu David ? Qu'est-ce qu'il représentait à ce moment-là ? Qui il était et qu'est-ce qu'il représentait parmi les artistes du New York Underground des années
C'est une figure très importante, David, puisqu'il a marqué un petit peu, je dirais, le passage des années 90. Il a été un porte-parole politique, une mouvance très radicale. Il avait écrit des livres très puissants et très enflammés qui ont mis un peu le feu aux poudres à l'époque. Et c'est une figure très importante dans le milieu de l'art contemporain, bien sûr.
D'accord. Alors justement, par rapport à cette figure, par rapport à Marion, qui a réalisé les photos, une grande partie des photos qu'on voit dans ce livre, qu'est-ce que ce travail que vous avez édité, qu'est-ce qu'il dit de la personnalité de chacun et de leur amitié aussi ?
Je dirais que vraiment, au tout premier abord, on sent vraiment une force vitale très importante, très puissante. Et d'ailleurs, c'est un peu de ça dont il s'agit aussi. C'est-à-dire que leur amitié, a priori, était vraiment sur cette même vibration, quoi. C'est quelque chose de très puissant, qui allait souvent au clash, etc. Mais parce qu'il y a une force vitale, il y a des choses à dire. Et donc, forcément, on ne va pas dans le consensus. Donc, il y a quelque chose d'assez... une vraie belle énergie en fait à communiquer.
Et quelle idée vous aviez en tête pour ce livre quand vous vous êtes plongé dans ce travail-là, vous vous êtes dit voilà, je vais en faire un livre, mais qu'est-ce qui vous a guidé?
C'est le voyage.
C'est le voyage.
C'est le voyage. Les premières photos que j'ai vues de Marion. C'était une photo avec inscrit sur le sable Marion et David 1991, qui est en fait dans le sable du désert des États-Unis. Et en fait, j'ai eu une sorte d'intuition qui me disait que c'était par là qu'il fallait aller et que c'était ce chemin-là à prendre. Et je ne me suis pas trompée parce qu'en fait, j'ai fait pas mal de découvertes tout au long du travail sur les archives de Marion, qui sont quand même très importantes, très grande.
Et quel type de découverte?
Des découvertes sur des clichés jamais vus, sur cette histoire, elle n'est pas si lisse et si simple. Et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui nous passe par la tête quand on est en train de faire un dernier voyage parce qu'on se sait condamné et quand on sait que son ami est condamné? Donc il y a plein de choses qui se jouent et de nombreuses œuvres d'art qui sortiront tout de suite après d'ailleurs.
D'accord. Comment est-ce que vous avez travaillé? Comment est-ce que vous avez travaillé sur l'editing des photos?
Parce que vous avez pris le parti aussi de ne pas les attribuer, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles sont celles qui ont été faites par Marion et quelles sont celles qui ont été faites par David Wojnarowicz.
Oui, parce qu'à la base, notre idée, c'était surtout de travailler qu'avec le matériel de Marion et de regarder cette période-là à travers le regard de Marion et de refictionnaliser à partir de là. Donc, il n'était pas, au début, il n'était pas tellement question de travailler avec les photos de David. Mais il y a eu des pertes dans les archives de Marion. Et quand on a fouillé un petit peu aussi celle de David, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu de photos manquantes dans l'histoire de Marion qui étaient aux archives de David. Et on a sélectionné quasiment que les photos où Marion est mise en scène par David dans des positions vraiment très particulières et qui vraiment font penser au travail de David. Et c'est celle-là seulement qu'on a choisie. Et pourquoi est-ce qu'on ne les réattribue pas? Parce que c'est aussi une histoire, c'est aussi ça, faire de l'art. C'est-à-dire, on ne sait pas toujours qui est derrière l'appareil. L'art, il ne tombe pas tout droit d'un seul créateur, du grand créateur, mais c'est fait d'une histoire de rencontre, de discussion, de ratage et d'expérience de la vie.
D'accord. Marion, quel regard vous portez sur l'editing de Charlotte, sur le choix des photos, la manière dont elle les agence dans le livre? Quel regard vous portez?
Déjà, moi, j'ai été très étonnée quand elle m'a contactée, je ne la connaissais pas, et elle me parle de son projet. On se retrouve dans un café, elle me parle de son projet. Et franchement, j'étais très étonnée. D'abord, comment est-ce qu'elle était arrivée jusqu'à ce travail? Parce que c'est un travail que je n'ai jamais montré. J'ai peut-être publié une photo par-ci, par-là, parce qu'on me l'a demandé, mais ça n'avait pas à voir avec le voyage, ça avait à voir avec David. Et donc, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui, malgré sa voix douce et son charme, j'ai compris que c'était quelqu'un qui était très déterminé dans ce qu'elle voulait faire. Alors que moi, je comprenais pas qu'on veuille faire un livre avec ça, surtout un livre photo qui se vende mal, on rentre jamais dans son argent. Enfin bon, je trouvais qu'elle était vraiment courageuse comme éditrice de vouloir faire ce livre. Donc je me suis laissée gagner par son désir, et très vite j'ai compris qu'elle avait une vision très claire et personnelle de ce qu'elle voulait faire de ce travail. Donc je me suis un petit peu effacée, j'étais un peu impressionnée, et puis en même temps j'ai vraiment aimé l'idée que quelqu'un s'empare de mon travail avec un regard complètement extérieur, parce que pour moi c'était un travail intime, c'était quelque chose qui m'appartenait, que j'étais seule à regarder, que j'avais du mal à montrer. Donc tout d'un coup, d'avoir un regard extérieur qui allait re-regarder tout ça, réanalyser tout ça, je me suis dit, ben oui, c'est formidable. Et d'ailleurs, je voulais raconter une anecdote à propos de ça. Une fois qu'elle avait fait un premier jet de maquette, on a regardé la maquette. Et puis, moi, il y avait des photos, je ne comprenais pas pourquoi elle les avait choisies. Moi, je les trouvais assez, quelques-unes en tout cas, bien sûr, il y en a beaucoup que je trouvais fortes, mais il y a quelques-unes que je trouvais assez insignifiantes. Et il y avait cette photo de... Je suis dans la voiture, la porte est ouverte sur un paysage désert et je photographie juste la porte ouverte sur ce paysage désert. La voiture était arrêtée, probablement David était allé pisser dans le paysage. Et puis bon, j'ai pris cette photo et cette photo était dans le livre. Alors je lui dis, je ne sais pas si j'aurais mis cette photo. Et elle m'a répondu, pourquoi tu la trouves trop dramatique ? Et franchement, tout d'un coup, j'ai compris que ces photos ne m'appartenaient plus, quoi, que c'était, ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'on projetait sur une photo qui, pour moi, était insignifiante, quelque chose de l'ordre d'elle-même, hein, parce que pourquoi cette photo lui semblait dramatique? Et j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, qu'elle fasse ce qu'elle veut de ce travail, c'est vraiment bien, quoi, ce regard extérieur.
Charlotte, vous avez aussi accompagné ces photos de trois textes. Un texte de Cynthia Carr, la biographe officielle de David Wojnarowicz. Un texte de Thibaut Boulevin et un autre d'Elisabeth Lebovici que vous allez nous présenter. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes adressée à eux?
C'était assez une évidence parce que Thibault a fait une thèse sur, sur les artistes contemporains et le sida, très importante. Donc, il connaissait parfaitement le sujet, l'œuvre de David, etc. Donc, il était, je dirais, le mieux placé en tant qu'historien pour pouvoir parler de cette question-là. Et puis, un petit peu plus tard, Elisabeth est rentrée dans le projet, Elisabeth Lebovici, qui est une éminente critique d'art et universitaire et chercheuse. Et elle a apporté un regard plus précis sur la communauté underground. Et aussi, vraiment, elle fait un parallèle avec un livre de Marguerite Duras qui est assez intéressant. Donc, c'est un très, très beau texte et très, oui, de l'heure de l'intime.
D'accord. Alors, avant de repasser la parole à Marion pour qu'elle nous raconte plus précisément ce voyage, sa relation à David, je voudrais vous poser une dernière question, Charlotte, et savoir ce que ce livre représente pour vous parmi, parmi tout ce que vous avez réalisé. Quelle est la place de ce livre ?
Bah, il a une place un peu particulière parce que je dirais que finalement, il sort un peu tard par rapport à mes recherches, mais c'est que ça fait des années en fait que ça s'est mis en place de manière très lente et du coup, c'est un sujet qui m'a habité très longtemps et qui m'habite encore. Donc, je pense que c'est un livre, oui, tout particulier, très important.
Merci Charlotte. Marion, je me tourne vers vous à nouveau. Déjà, pour savoir comment vous avez rencontré David, où et comment vous l'avez rencontré ?
En fait, j'ai quitté Paris en 81 et je suis partie m'installer à New York. On m'avait proposé un travail pour 3 mois et j'avais jamais vécu à New York et donc je suis partie. Et puis en fait, j'y suis restée 5 ans. Et j'ai rencontré David Wojnarowicz parce que je m'étais installée dans le East Village qui à ce moment-là, dans le début des années 80, était vraiment... un quartier en pleine ébullition où tout ce qu'il y avait d'underground dans New York s'installait là parce que c'était un quartier complètement abandonné, avec des immeubles éventrés, il y avait beaucoup de drogue et donc les loyers, en fait, c'était un quartier qui était considéré malfamé et dangereux, et en fait les loyers étaient très bas. Et comme à Manhattan, tout devenait de plus en plus cher, qu'il y avait de gentrification en gentrification, on ne trouvait plus d'endroit où vivre, en fait plein de gens se sont retrouvés dans ce quartier, et ça fait une sorte de communauté en ébullition. Il y avait des musiciens, des peintres, des écrivains, des poètes, des stylistes, il y avait de tout, quoi. Et c'était vraiment... Je pense que je suis arrivée dans les dernières années fortes de New York où l'expérimentation de la vie était vraiment présente. Parce qu'après, il y a eu le sida. Enfin, le sida a commencé en 81, mais on a vraiment commencé à en parler et commencé à atteindre les gens en 84. Après, la plus forte période, ça a été 86, les années 90. Et donc, c'est la dernière. Puis après, il y a eu la guerre du Golfe qui a arrêté tout ça, quoi. Donc, j'étais vraiment heureuse d'être dans ce quartier. Je crois que j'ai vécu les plus belles années de ma vie, les plus intenses, là. Et j'ai rencontré David dans ce quartier.
Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres ?
Déjà, il s'est passé quelque chose d'incroyable à notre première rencontre. Je ne sais pas, c'était un artiste qui avait c'était un personnage très radical politiquement, qui avait une vision très critique de la civilisation américaine. Et il ne faut pas oublier qu'on était dans les années Reagan et qui avait vraiment... une colère contre ce gouvernement et ses institutions. Et moi, je venais des années 70 en Europe où j'étais moi-même militante autonome dans un groupe féministe autonome. On avait traversé quand même, on avait frôlé de participer à des groupes terroristes. Il y avait les brigades rouges en Italie, il y avait la fraction armée rouge en Allemagne. En France, il y a eu Action Directe, mais heureusement, ça n'a pas pris. On a échappé à ça. Et moi, quand je suis arrivée à New York, j'avais quand même toute cette radicalité dans la tête, tout en sachant que c'était une histoire finie. Et de rencontrer à New York quelqu'un comme ça, d'une radicalité si forte, ce qui est rare, hein, en plus un artiste américain radical, il y en a très très peu, il y a tout de suite eu quelque chose qui s'est passé entre nous de très fort. On l'a senti tous les deux. Et à partir de là, on a passé 2 ans à ne plus se quitter, faire des choses ensemble, produire des choses ensemble. Souvent, c'était à partir, d'ailleurs, pratiquement toujours, c'était à partir des concepts de David. Et moi, je l'aidais à réaliser en photographie ou en vidéo ce qu'il avait dans la tête, quoi.
Charlotte parle de votre amitié. Quand elle parle de votre amitié, elle parle d'amitié passionnée. En quoi elle l'était ?
Oui, elle était passionnée. Moi, je dirais que c'était une amitié chaotique, avec des hauts et des bas, des hauts très, très forts, où il y avait une complicité entre nous, une exaltation à faire des choses ensemble, et puis des périodes où tout se délitait, où on se séparait parce que la relation était trop forte et que David était quand même quelqu'un de très indépendant et qui avait peur des relations fortes. Et c'était une manière de fonctionner pour lui. Dès qu'une relation était trop forte pour lui, il la rompait, mais très brutalement. Et c'est arrivé 2 fois dans notre relation où il m'a rejetée brutalement après des moments très forts, où on avait fait plein de choses ensemble. Disons, c'était une relation passionnée. J'ai mis beaucoup d'années à me dire que c'était une histoire d'amour. Et j'ai mis beaucoup d'années à le réaliser, à le comprendre, parce que moi, j'étais hétérosexuelle et lui, il était homosexuel. Et c'est ça qui faisait qu'il était différent pour moi. Parce qu'il m'ouvrait des portes fantastiques sur le fait de pouvoir faire des choses avec un garçon. Et ce qui me, quand j'étais avec David, ce que j'aimais, c'est que ça me rappelait mon enfance, quand j'aimais aller jouer avec les garçons quand j'étais petite fille, et qu'ils venaient me chercher pour aller chercher des grenouilles dans un étang, pour construire des petites baraques, des petits abris sous les arbres, ou quand on courait dans l'herbe en imitant le galop du cheval. Et avec David, en fait, comme la question de l'acte sexuel ne se posait pas, il y avait cette liberté étonnante où on pouvait faire plein de choses. On pouvait même parfois dormir dans le même lit. On savait que on ne passerait jamais à l'acte de notre désir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de désir, mais en tout cas, on savait qu'on ne passerait pas à l'acte.
Pourquoi est-ce que David vous a proposé ce voyage à vous ? Ce qui était son dernier voyage,
hein ? Écoutez, je me pose toujours la question. Vous savez, dans ma relation avec David, il y a beaucoup de questions qui resteront à jamais sans réponse. C'était très fort qu'il me propose ce voyage. Je savais que c'était quelque chose d'unique, que de toute façon, je ne pouvais pas refuser. Je savais que ce serait un voyage qui serait imprégné par l'idée de la mort, parce que au bout de ce voyage, ou en tout cas au bout de cette histoire, il y aurait la mort de David. J'avais peur. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. J'avais peur de ne pas tenir jusqu'au bout. Et puis, j'avais peur aussi beaucoup du rejet de David, parce que j'étais sûre qu'à la fin du voyage, il me rejetterait. Parce que forcément, passer 3 semaines ensemble à voyager, ça crée des moments très, très forts, mais ça crée aussi des tensions. Donc, j'avais peur de ce rejet.
Ce qui s'est passé, d'ailleurs.
C'est ce qui s'est passé, effectivement. Après ce voyage, il n'a plus voulu me revoir. Et je crois qu'il ne voulait pas que je sois à ses côtés au moment de sa mort. Donc, je ne pouvais pas refuser ce voyage. C'était quelque chose qui m'offrait, quelque chose d'unique. Il était impossible pour moi de ne pas le faire.
Et comment il vous l'a vendu, dirais-je, enfin entre guillemets, est-ce que c'était juste un voyage, une traversée, un travail que vous alliez faire ensemble ? Qu'est-ce qu'il vous a proposé très précisément ?
En fait, il m'a très vite dit qu'il pensait que ce serait son dernier voyage. Et pour moi, le fait qu'il me propose de faire ce voyage avec lui, c'était un immense cadeau. C'était comme la dernière chose qu'il allait m'offrir. Et il me l'offrait à moi. C'est ça que je n'ai pas compris. Pourquoi moi ? Même s'il y avait eu cette amitié très forte, il avait aussi des amours masculines fortes auxquelles il était attaché.
D'accord. Mais alors, Concrètement, comment vous le préparez, ce voyage? Qu'est-ce que vous emmenez comme matériel? Comment ça se passe?
Ben, on était très excités de partir ensemble. C'était le voyage, il y avait quand même une énergie, on était heureux, on savait qu'on allait traverser les déserts américains. Pour moi, j'étais complètement dans le mythe du road trip. Je me disais, c'est génial, je vais vivre cette aventure de traverser l'Amérique, de traverser les déserts, les ciels bleus éclatants, enfin tout ça, quoi. Puis en voiture... Donc, moi, j'étais complètement dans la mythologie du voyage américain. Et donc, je savais que lui allait écrire, qu'il faisait toujours des photos, il avait un appareil de photo. Donc, moi, j'ai pris mon appareil de photo, j'ai pris un trépied, parce que je savais que ça allait me permettre de faire des petites mises en scène. Et j'ai emmené mon appareil photo, qui était un Nikkormat. Et j'avais trois objectifs, un 28 mm pour les plans larges, un 35 mm que j'aime beaucoup, c'est parce qu'il y a de la bonne profondeur de champ et que le piqué est très bon, et puis un 105 pour les portraits. Et puis au niveau des pellicules, j'ai pris de la 64 ASA, justement pour pouvoir rendre compte des couleurs éclatantes de l'Amérique, des routes américaines et du ciel américain. Et puis j'ai dû prendre de la 125 et puis de la 400 ASA pour le grain qu'elle donne. Et j'ai emmené mon Polaroid. Je dois avouer, aujourd'hui, il y a prescription, mais j'ai volé beaucoup de packs Polaroid. Parce que c'était cher à l'époque pour 10 photos Polaroid. Je ne sais pas combien on payait, mais moi, je n'avais pas d'argent et tout. Donc, je me suis un petit peu spécialisée dans la réappropriation de...
Ne nous en dites pas plus. Bon. Est-ce que vous avez tous les deux d'emblée considéré ce qui allait se passer, ce travail que vous alliez faire comme un travail commun ou comme le travail de chacun?
Non, je crois que chacun faisait son travail. Bon, moi, je pouvais lui montrer mes Polaroids, mais de toute façon, lui, il ne pouvait pas me montrer ses photos puisque c'était sur du film noir et blanc. Donc, et puis moi, mes diapos et mes films noir et blanc, on ne les a développés qu'après. Donc, non, chacun faisait ce qu'il sentait et voilà. Et ce que je voulais dire, c'était que quoi que ce soit que lui me propose ou quoi que ce soit que moi, je lui propose... Maintenant, je me rends compte qu'à aucun moment, il n'a questionné ce que je faisais quand je prenais des photos, quand je lui demandais, quand je lui disais « Tiens, j'aimerais bien faire une photo de toi avec ça, comme ça. » Jamais il m'a questionné sur le pourquoi. Et de la même façon que quand lui m'a dit qu'il avait besoin de moi pour faire une photo où il voulait que je l'enterre dans le sable, que je recouvre son visage de sable et que je prenne la photo... J'ai pas questionné le pourquoi de cette photo. Enfin, on n'était jamais dans le regard critique du travail de l'autre. Mais au contraire, il y avait cette chose très très forte où on se soutenait dans ce que l'autre avait envie de faire.
D'accord. Cette photo que vous évoquez, qui est quand même une photo essentielle de son travail, qui a une force et une symbolique très forte.
Oui, c'est une photo qui s'appelle Face in Dirt, qui a été publiée après la mort de David, selon la volonté de David. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que cette photo soit dévoilée avant sa mort. Et c'était sur le voyage du retour. Il m'a dit, on était dans la voiture, on traversait un territoire Pueblo, qui est un peuple indien américain. Et il m'a dit, il y a une photo que je veux faire et j'ai besoin de toi pour la faire. J'ai dit d'accord, je ne lui ai même pas demandé ce que c'était. On s'est arrêté, on a traversé un village abandonné, Pueblo. On a descendu une forme de crique comme ça, on l'a dévalé dans la poussière. Et puis, à l'abri des regards du village, il m'a dit voilà, on va creuser un trou, je vais me mettre dedans, tu vas me recouvrir de terre et tu vas mettre de la terre sur mon visage. Et je voudrais que tu photographies mon visage enseveli sous la terre. Bon, j'ai toujours pas posé de questions. La terre était sèche et dure, on l'a creusée à main nue. Et puis, une fois que le trou était assez grand, il s'est allongé dedans. Il m'a dit « recouvre-moi », je l'ai recouvert. Il m'a donné son appareil de photo et j'ai recouvert délicatement son visage avec de la terre, mais j'ai laissé apparaître ses yeux, son nez, sa bouche, son menton. Et j'ai mis son corps entre mes jambes, c'est-à-dire que moi j'étais debout, son corps entre mes jambes, et j'ai pris quelques photos. Et je dois dire que j'avais vraiment la gorge serrée en prenant ces photos, parce que d'une part je sentais la force de cette image, de cette image qu'il avait conçue, et le fait que lui aujourd'hui était vivant et je faisais cette photo, et qu'un jour il serait mort et que cette photo existerait.
Vous avez réussi à un moment à tenir la mort à distance quand même de ce voyage ?
Il y avait des moments où elle était à distance, parce qu'on avait des moments gais, on avait des moments où on riait, on avait des moments où on s'amusait. Et puis non, c'était difficile de garder la mort à distance. Je me souviens qu'on avait une fois une conversation, je lui disais combien je détestais les autoroutes parce qu'il n'y avait pas de chemin de traverse possible. Et je lui avais dit que pour moi, c'était comme une métaphore de ce qu'on vivait. C'est-à-dire que moi, j'étais à la place du mort, puisque dans la voiture, il y a toujours une place du mort, mais ce ne serait pas moi qui serais morte à la fin du voyage. Et donc, il y avait cette idée qu'on était sur une autoroute qui nous menait à la mort de l'un de nous deux et qu'il n'y avait pas de route de traverse possible.
Alors, je reviens à votre manière de travailler avec David. Il y a beaucoup d'animaux dans ces photos, aussi bien des animaux en plastique, des figurines en plastique, que des animaux réels, des étalons, comme des grenouilles ou des serpents en plastique. On sent que ce sont des éléments importants pour l'un comme pour l'autre. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous ? Comment vous travaillez justement avec les animaux ?
Alors, David avait beaucoup, beaucoup d'empathie pour les animaux. Il a grandi dans la forêt, il allait se cacher d'une famille violente. Il passait beaucoup de temps dans les forêts à regarder les animaux. Il avait une véritable empathie pour les animaux. Et ça le touchait vraiment quand il trouvait un animal mort, qu'il photographiait d'ailleurs. Dans ses photos, il y a beaucoup d'animaux morts, ou en tout cas entravés par la volonté de l'homme. Pour moi, c'était différent. D'abord parce que je ne voulais pas faire les mêmes photos que lui. Je voulais lui laisser son territoire. Et par contre, pour moi, on aimait tous les deux les animaux en plastique et tout. Il y avait un crocodile, il y avait une grenouille, la bouche grande ouverte avec un petit bébé grenouille sur le dos. Il y avait un requin, il y avait des fourmis, il y avait des animaux préhistoriques, tout ça. Donc, on les achetait au fur et à mesure. Et moi, je les aimais beaucoup parce que ça me permettait de mettre en scène métaphoriquement des situations que je vivais. Par exemple, de mettre une grenouille avec la grande bouche ouverte face à un serpent dressé, quelque part, ça parlait des moments durs entre David et moi où c'était tendu.
Et qui était la grenouille ?
Il y avait un petit bébé sur la grenouille. Moi, j'étais la grenouille et lui, il était le serpent avec le venin qui allait sortir.
Elisabeth, dans son texte, Elisabeth Lebovici écrit « La traversée américaine a tant de fois été saisie, captée, reproduite en photographie, élaborée par un réseau d'images dès le XIXe siècle. » Comment avez-vous essayé de renouveler le genre ?
Franchement, je ne l'ai pas renouvelé. Non, je ne pense pas. Moi, j'étais complètement dans la mythologie des grands espaces américains. J'adorais le travail de Wim Wenders, qui était un Européen et qui avait ce regard sur l'Amérique, qui faisait des très belles photos dans la tradition des coloristes américains, des photographes coloristes américains. Et j'aimais beaucoup sa façon de capter le ciel électrique, bleu, avec une enseigne de motel, les couleurs fortes, les grandes routes comme ça qui traversent des espaces infinis. Oui, j'étais plutôt dans cette tradition-là. Par contre, sur le récit d'un voyage, il y a beaucoup de photographes qui ont parlé du voyage et qui ont travaillé sur le voyage, beaucoup à la découverte de pays, de peuples, d'histoires, etc. Et puis, quelques-uns qui ont été plus dans le voyage intime. Et entre autres, pour moi, le photographe le plus fort dans raconter un voyage intime, c'est Bernard Plossu avec Le Voyage américain, que j'avais adoré. Mais bon, vous voyez, mes photos n'ont rien à voir avec celles de Plossu. Mais il y a cette question de l'intimité. Comment on traite l'intimité dans un voyage? Et là, l'histoire, c'était quand même de ce voyage avec David dans une intimité très proche.
Et dans un rapport à l'Amérique, comme vous le disiez tous les deux, qui était assez différent, comment y cohabiter d'abord? Est-ce que vous pouvez, parce que si j'ai bien compris, il y avait une rage de David. On était encore dans l'Amérique de George Bush père, qui avait succédé à Reagan. Comment ça cohabitait ces deux visions de l'Amérique?
Si vous voulez, on n'avait pas du tout le même regard. Moi, comme je vous dis, j'étais dans la mythologie américaine. J'adorais ces grands espaces et tout, avec l'idée quand même que le peuple américain s'était construit sur le génocide des Indiens. Donc, c'est présent dans la terre, dans tous ces déserts et tout ça. D'ailleurs, quand on a traversé les territoires Pueblo, il y avait un grand panneau à l'entrée du territoire qui disait « Touriste, vous n'êtes pas le bienvenu ». Donc déjà, ça donnait le ton. Donc moi, j'étais quand même dans cette mythologie-là, alors que David, qui lui était homosexuel et qui était au fin fond de l'Amérique, pour lui, il y avait le danger tout le temps. Le danger qu'on découvre qu'il était homosexuel, qu'il se fasse casser la gueule dans un bar, qu'il se fasse tabasser. Enfin, il y avait quand même, par exemple, quand j'ai photographié David dans la voiture avec ses deux très beaux étalons noirs libres en courant dans le désert. En fait, on avait pris un chemin de traverse et on ne savait pas où il nous menait. Et David roulait. Et puis, en fait, au bout de ce chemin, il y avait une ferme, une sorte de ranch ferme. Et David m'a dit, on fait demi-tour. Alors, j'ai dit, mais pourquoi? Et il me dit, tu peux être sûr qu'ils vont nous accueillir avec un fusil. Donc, lui... Moi, européenne, j'aurais plutôt été jusqu'à la ferme, essayer de rencontrer des gens, etc. Lui, en tant qu'Américain, il savait le danger qu'il courait et cette volonté de meurtre, parfois, de l'Amérique normopathe.
Vous pouvez nous rappeler très brièvement dans quel milieu il avait grandi et où il avait grandi, parce que vous parliez de son enfance tout à l'heure, où il se réfugiait dans la forêt.
En fait, c'était une petite middle class américaine. Il vivait dans le New Jersey. Et son père était marin sur des paquebots de croisière. D'accord. Donc, il était très souvent absent. Sa mère était une ancienne hippie. Pourquoi elle a épousé cet homme, je ne sais pas. Lui, il était d'origine polonaise, d'où le nom Wojnarowicz. Et c'était quelqu'un de vraiment très violent, alcoolique, qu'on appellerait aujourd'hui un pervers narcissique. C'est-à-dire que dans sa famille, il ne supportait pas qu'il y ait la vie, il ne supportait pas que sa femme, ses enfants aient des désirs. Il les battait, il les descendait à la cave, les battait avec un ceinturon. David a tout de suite vu que son père, enfin, il a tout de suite senti quoi, que son père était un malade mental, mais personne ne le protégeait de ça. Les voisins voyaient ce qui se passait et personne ne disait rien. Et donc, en fait, il était heureux quand son père partait et c'était un danger pour lui quand son père rentrait.
D'accord. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous ne vous êtes plus revus après ce voyage. Avez-vous pu au moins discuter de ce que vous alliez faire de ce travail?
Non.
Non.
On n'en a pas eu l'occasion. Et moi, quand j'ai vu qu'il avait publié, enfin que la photo où il était enterré a été publiée 2 ans après sa mort, c'est la première fois que j'ai vu la photo. Et non, parce qu'on ne s'est plus parlé, quoi. C'est-à-dire, on savait, plus on arrivait vers la fin du voyage, plus c'était dur pour moi, parce que je savais qu'il y aurait le rejet, je le sentais venir petit à petit. Et puis lui, parce qu'il allait confronter sa maladie, il devait partir à Boston pour un traitement, et il savait que de toute façon, il allait vers sa mort et qu'il avait des choses à faire où moi, je n'avais pas ma place, en fait. Et donc, quand on s'est quitté à New York, je savais que c'était la dernière fois qu'on se voyait.
Il y a ce texte aussi que Charlotte a retenu pour le livre, ce texte manuscrit que vous avez écrit. D'où il vient ce texte? Quand est-ce qu'il a été écrit et,
En fait, il a été écrit dans l'avion du retour, c'est-à-dire quand on a quitté Albuquerque, qu'on a pris l'avion du retour. C'était un voyage insupportable. On a fait 11 heures d'avion avec une escale à Houston. C'était très tendu entre nous. On ne se parlait pratiquement pas. Donc, moi, j'ai pris... Lui, il écrivait dans son journal. Moi, j'ai pris le mien. Et j'ai repensé à tout ce voyage et j'ai rêvé. J'ai rêvé du film que j'aimerais faire, de ce voyage avec deux êtres fictionnels. J'étais en train de lire le livre de Wim Wenders, La part de l'ange, je crois que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça. Et il parlait d'un film qu'il a fait qui s'appelle Nick's Movie et qui est sur la mort de Nicolas Ray. Parce que Nicolas Ray a vraiment vécu les dernières années de sa vie très mal avec un cancer. Et dans le film que j'avais vu, il y a une pagode comme ça qui descend l'Hudson River, qui part à la dérive. Et il raconte dans ce livre que, en fait, l'idée de la pagode lui est venue d'une expression américaine qui dit « a slow boat to China ». C'est-à-dire, ça veut dire ces embarcations qu'on prend, qui partent à la dérive et qui partent dans des pays lointains. Et c'était une métaphore de se glisser vers la mort. Et je me suis dit, mais c'est génial, j'aimerais bien faire... C'est un très beau titre pour un film, A Slow Boat to China. Et j'ai commencé à imaginer un film qui serait l'histoire d'une adolescente hétérosexuelle et d'un homme homosexuel, lui, dans les 30 ans, qui voyait sa mort venir parce qu'il était atteint du sida, et elle qui s'ouvrait à la vie avec toutes ses questions, sa désespérance. Donc, une sorte de road movie sur deux personnages comme ça qui sont à la dérive et qui n'ont pas les mêmes questionnements sur la vie. Et je voyais même deux acteurs pour ce film. Charlotte Gainsbourg, que j'adorais, qui aurait très bien fait l'adolescente. Et puis John Lurie, qui était un musicien new-yorkais que je trouvais hyper sexy.
D'accord. Voilà. Ce texte a été écrit il y a presque 30 ans, 91. C'est ça. C'est un texte qui vous a accompagné régulièrement ou là, il est ressorti pour l'occasion ?
Non, j'ai régulièrement relu les pages de mon journal pendant toutes ces années. J'ai revu les photos. Enfin bon.
Charlotte, vous l'aviez, ce texte-là, vous l'aviez. Marion, vous l'avez montré ou vous l'avez découvert ? Vous en aviez entendu parler ?
Je l'ai découvert dans les archives avec... En fait, on s'est un petit peu interrogé sur les archives de David, puisqu'on a été regarder quelques photos, etc. Et puis, Laurence Vialet, qui est une éditrice, qui est l'éditrice française de David Wojnarowicz, qui travaillait à la publication des journaux, m'a donné un petit appel du pied pour que je jette un œil aussi un peu du côté des journaux. Et du coup, j'ai ouvert les journaux de Marion aussi,
d'accord,
qui était assez beau et qui explique non seulement le livre, mais aussi leur relation pendant le voyage, les anecdotes, des choses assez intéressantes.
Dans tout ce corpus, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Je dirais qu'il y a différents niveaux de photos. Il y a des photos de la mythologie qui sont très mises en scène, etc. Et il y a les photos complètement intimes de deux amis qui partent en voiture, qui font des arrêts dans les motels et pipi dans dans les buissons. Et du coup, tout se rencontre un peu là-dedans. Et les photos d'art aussi, bien sûr.
On ne se rend pas compte, mais ça représente la part que vous avez sélectionnée, en fait, les photos qu'il y a dans le livre que vous avez sélectionnées. Est-ce que c'est une très grosse part, c'est l'essentiel, ou est-ce qu'il y a encore énormément d'images qu'on ne connaît pas ?
Oui, il y a beaucoup d'images qu'on ne connaît pas.
Ça représenterait à peu près un tiers,
Oui, un tiers peut-être des photos du voyage, mais une infime partie de tout le travail de Marion.
Et de tout ce travail, est-ce qu'il y a une image que vous auriez aimé, une qui vous a marqué en particulier ?
Je ne peux pas en choisir qu'une, mais celle des étalons est pas mal. Et ma préférée, personnellement, c'est quand ils se marrent tous les deux dans la voiture et que la photo est un peu de travers. Ouais.
Moi, j'aimerais dire un dernier mot quand même. J'aimerais vraiment beaucoup remercier Charlotte d'avoir fait que ce livre existe, parce que du coup, toute cette histoire devient réalité. Et pour moi, c'est important.
Oui, parce que on sent l'émotion très forte. Hein. Pour vous, Marion, comment, ou peut-être que Charlotte peut l'expliquer aussi, comment vous expliquez que les photos aient mis autant de temps à être montrées ?
Ça, je pourrais peut-être y répondre. C'est que, si vous voulez, dans le paysage new-yorkais et probablement dans le paysage homosexuel, je ne rentrais pas dans le cadre. En tant que fille et puis en tant qu'hétérosexuelle, pendant très longtemps, je me suis sentie illégitime de parler de mon histoire avec lui. Donc, je crois que c'est pour ça que ça a mis autant de temps à sortir. Et je suis contente que Charlotte et Cynthia Carr aussi, avec son autobiographie, avec la biographie de David, aient donné existence et présence à cette histoire.
De David, on a. C'est vraiment à la fin. En 2018, il y a eu cette rétrospective au Whitney. Et puis tout d'un coup, on est revenu à l'œuvre de David. Comment vous expliquez qu'il ait fallu toutes ces années pour que l'Amérique se replonge dans son travail et avec l'Amérique, le reste du monde, et qu'en Europe, on y soit venu pour la première fois, je dirais. En tout cas, de manière assez importante, puisque la rétrospective du Whitney a été présentée au Luxembourg, a été présentée à la Reina Sofía à Madrid. Comment vous expliquez qu'il ait fallu ce laps de temps pour revenir à son œuvre ?
L'œuvre de David n'est pas une œuvre facile. Hein. Il y a de l'écriture, il a fait des textes très forts, il y a de la peinture qui n'est pas toujours facile d'accès. Il y a des textes, des performances qui sont très violentes par rapport à l'attaque, avec une attaque très frontale de la société américaine. Donc ce n'était pas un travail facile. Et de toute façon, il faut compter une génération, il faut compter bien 30 ans pour qu'un artiste revienne dans l'histoire de l'art et trouve sa place. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est quand même revenu à des années assez horribles avec
Trump, Donald Trump.
Avec Donald Trump. Finalement, toute sa radicalité aujourd'hui reprend un sens pour beaucoup de jeunes. Et c'est ça qui est fort pour moi, et c'est pour ça que je suis heureuse, c'est que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à David Wojnarowicz, le découvrent, lisent ses textes. C'est toute une nouvelle génération qui s'empare de son travail, et ça, c'est formidable.
De ce voyage, Marion, parce que je vois l'heure qui tourne, de ce voyage, s'il fallait garder une image, ça serait laquelle ? Pour Charlotte, c'est les étalons.
Pour moi, c'est... Ah, c'est les étalons ?
Non ? Oui.
Non, c'est celle où on rit.
Oui, celle où vous riez.
Ouais, c'est des étalons aussi, ouais. Moi, en fait, c'est celle des étalons.
Oui.
C'est-à-dire que c'est une photo couleur avec des couleurs très vives. Et David est dans l'habitacle de la voiture en train de conduire. Donc, l'intérieur est noir. Son visage est juste en ombre chinoise. Pratiquement, on voit à peine ses lunettes et sa bouche. Et par la fenêtre, on voit ces deux étalons noirs magnifiques en liberté dans un paysage désertique. Et je trouve que c'est une photo très belle.
Par rapport au travail que vous avez fait ensemble avec David, par rapport à ce voyage, par rapport à toute cette expérience que vous avez vécue tous les deux, par rapport aux photos de lui que vous avez, de quoi vous avez envie maintenant ? Le livre existe ? Est-ce que vous avez envie d'autre ? Il y a autre chose que vous aimeriez faire ?
Concernant votre
histoire à tous les deux, concernant votre travail à vous avec lui, concernant...
J'aimerais... En fait, je suis en train de le faire avec un ami graphiste. Il y a une bourse de l'ADAGP qui est donnée aux monographies.
Ouais.
Et je tente le coup. C'est-à-dire que j'ai envie de raconter toutes ces années new-yorkaises jusqu'à l'an 2000. Il y a eu ces 10 années fortes avec David et avec qui on a produit vraiment des choses fortes, aussi bien moi personnellement qu'ensemble et lui. Et puis après sa mort, j'ai eu un long moment de silence parce que c'était trop émotif pour moi de me replonger là-dedans. Mais petit à petit, à travers des résidences d'artistes, j'ai pu monter les vidéos qu'on avait fait ensemble, les collaborations. J'ai pu regarder mes vidéos différemment. Et en fait, j'ai envie de raconter cette histoire singulière entre lui et moi de 1981 à 2020, c'est-à-dire 30 ans après sa mort, en fait.
Mais écoutez, j'espère qu'on pourra la voir bientôt. Merci à toutes les deux. Je rappelle que le livre devrait sortir autour de la fin du mois d'octobre. Merci encore à toutes les deux.
Merci.